dans le genre de
Pénélope Bagieu.
Quel genre?
Grande gueule.
Icône. Dans le genre.
Femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me les casse.
Puissant.
Masculin.
Masculin. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée.
Dominatrice.
Viril.
Macho.
C'est pas mon genre.
Dans le genre, l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Une émission de Géraldine Saratia.
Pénélope Bagieu, est-ce que vous vous trouvez féminine ?
Parfois.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le genre. Je reçois ce soir Pénélope Bagieu. Pénélope Bagieu est autrice de BD. On la découvre, souvenez-vous, sur le net avec un blog. Ma vie est tout à fait fascinante. Et depuis, on ne l'a plus lâché. Alors dans l'œuvre de Pénélope Bagieu, il y a des femmes, beaucoup de femmes, les culottées, ces portraits d'aventurières, scientifiques, sportives, toutes géniales en leur genre, et pourtant oubliées ou peu retenues par l'histoire. Les culottées lui vaudront un Eisner, l'équivalent de l'Oscar en BD. On avait également beaucoup aimé California Dreaming, consacré à Mama Cass, la chanteuse des Mamas and Papas. Et Pénélope Bagieu vient de sortir un nouvel album, Sacrée Sorcière, une adaptation du livre culte pour enfants de Roald Dahl. C'est drôle, émouvant et parfois un peu flippant. Alors ce soir, on va revenir sur son parcours, sur l'affirmation de son féminisme. On va parler de l'importance des représentations, de l'évolution du monde de la BD, de Freddie Mercury, de David Bowie, mais aussi de la crise du Covid et des inégalités qu'elle a révélées. C'est parti pour une heure dans le genre de Pénélope Bagieu.
Nova.
Dans le genre.
L'enfance.
J'ai grandi à Paris dans une famille monoparentale avec une mère et ma sœur. Voilà, dans une famille en fait assez classique avec une mère qui travaillait beaucoup.
Et elle faisait quoi votre mère ?
Elle était journaliste.
Et vous diriez, alors on va commencer par votre mère, tiens, on va changer un peu, c'est vrai, cet ordre était un peu hétéronormé, on va me dire. C'est quel type de femme, votre mère ?
En fait, elle venait d'une famille assez tradie, pas dans le sens religieuse, mais avec, comme souvent à l'époque, un papa qui travaillait beaucoup et qui n'était jamais là, et une maman qui s'occupait de plein d'enfants et qui ne l'avait pas forcément choisi. Alors qu'en l'occurrence, ma grand-mère, pour le coup, avait fait du droit, ce qui était quand même assez rare à l'époque, et avait envie de travailler. Donc, elle n'avait pas choisi cette place-là, je pense.
Votre grand-mère, celle qui a... dont vous vous êtes inspirée pour dessiner, non, pas celle-là.
Non.
D'accord.
Et je pense qu'assez tôt, ma mère s'est dit, d'accord, donc moi, je vais être papa plutôt. Je vais être celui qui vit des aventures folles et qui voyage et qui travaille. Et qui a... Voilà. Et après, en fait elle a fait deux enfants qu'elle s'est retrouvée à devoir élever assez vite toute seule. Et du coup, elle a très vite dû être le papa et la maman. Elle a plutôt bien réussi à faire les deux. Mais du coup, ça a fait qu'elle n'a pas eu le loisir d'incarner une image classique de la mère. Je pense qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de... C'était assez mélangé. Et puis elle, quand elle était plus jeune, elle a passé son permis moto, elle a commencé à faire des...
Elle voulait être exploratrice, votre mère.
Elle voulait être exploratrice, elle voulait avoir son permis moto alors qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'avoir son permis voiture. Enfin, plein de choses comme ça qui faisaient qu'elle... Je pense qu'elle était assez sauvage. Et assez révoltée parce qu'elle avait justement un carcan familial dont elle avait besoin de s'extraire au plus vite. J'ai assez bien compris que c'était ce qui l'avait rapprochée de mon père qui venait du même genre de famille et que tous les deux, ils avaient envie d'être des chevaux sauvages à moto qui s'affranchissent des normes et puis qui en fait...
C'est l'équipée sauvage quoi.
Ouais, mais qui ont eu des enfants tout de suite en fait.
Ouais.
Et du coup, ces choses-là ne sont pas vraiment arrivées. Donc, mais bon, après, ma mère a trouvé le moyen de... remettre la balance à zéro par la suite, mais donc avec une conception de la féminité du coup qui était pas très genrée quoi. C'est-à-dire il y avait pas de, j'ai jamais entendu ça c'est pas quelque chose qu'une fille doit faire ou on m'a jamais repris sur ma façon de me tenir ou de m'habiller.
Et elle s'habillait comment justement?
Bah du coup pratique en fait.
Ouais. Adaptée à ce qu'elle voulait faire.
Voilà, c'est ça. Et elle m'a plutôt toujours poussée, enfin, même pas poussée, mais ça n'existait pas le concept de s'habiller autrement que de manière
fonctionnelle. Elle mettait pas de maquillage, de vernis, de trucs comme ça.
C'est marrant parce que je crois qu'il y avait du maquillage dans la salle de bain chez ma mère quand j'étais petite, mais que j'ai vu pendant 10 ans être le même, c'est-à-dire elle y touchait pas et il était vraiment périmé.
Elle l'avait.
Ouais, c'est ça. Il y avait un crayon à noir qui a été là pendant. Je l'ai vu toute ma vie. Enfin voilà quoi. Donc c'était pas tellement son truc, mais C'est venu plus tard aussi quand elle a, je pense, quand elle s'est libérée du fait de devoir être une maman, parce que ouais. ça laisse de la place pour d'autres choses. Mais ça a surtout laissé la place pour elle, pour faire plein de voyages, faire plus ce qu'elle voulait quand elle était, quand elle avait plus à gérer une intendance, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment pas du tout été élevée dans ni la coquetterie, ni l'idée qu'il y avait des choses qui devaient être pour moi, mais c'était pas du tout politisé, dans le sens où on me disait, il y avait pas de discours féministe derrière, ni rien, mais dans les actes, ce que j'ai toujours vu, c'est que tout était à ma portée, et que, enfin, il y avait pas de, mais en même temps, il y avait vraiment pas un mec à l'horizon, quoi, donc ça aurait pas eu de sens de m'expliquer que j'avais accès qu'à la moitié de la vie en ne me montrant aucun modèle de ce qu'était l'autre moitié, quoi, donc...
Oui, oui, c'est ce que vous dites, c'est logique, et en même temps, ça se passe pas toujours comme ça.
Oui, bien
non
sûr.
Plus.
Mais voilà, et en plus de ça, j'avais effectivement des grands-mères assez omniprésentes. Comme je viens de deux familles corses.
Avec une forte personnalité, vos grands-mères, un peu. Oui. Pas très classique non plus.
Classique malgré elle, quand même. C'est-à-dire qu'elle, pour le coup, ma grand-mère paternelle, donc pas celle dont je me suis inspirée pour ma BD Sacrée Sorcière, elle, pour le coup, en fait, sans le vouloir, elle me disait. Casse-toi, sois autonome, fais pas comme moi. Elle a été quasiment mariée de force à un type vraiment pas très sympa avec elle, et elle a rien choisi de sa vie. Donc
oui, donc elle avait très fort l'envie de vous transmettre qu'il fallait absolument choisir, mais elle n'avait pas pu le faire.
Oui, et puis surtout, elle avait vraiment envie que je la fasse rêver, quoi. C'est-à-dire si elle pouvait vivre par procuration des choses au travers de ma sœur et moi. C'est dommage qu'elle soit morte il y a longtemps, parce que je pense qu'elle se régalerait de voir la vie que j'ai maintenant, et qu'elle se dirait yes, c'est super.
Elle a réussi.
Yes, elle fait ce qu'elle veut, c'est cool.
Ouais.
Mais
elle a été importante pour vous cette grand-mère?
Ah ouais, hyper importante. Bah en fait, j'avais quand même une famille à deux têtes, malgré le fait que j'ai pas mon père. J'avais vraiment ma mère et ma grand-mère. C'était vraiment les deux contre-pouvoirs qui m'ont transmis des choses hyper différentes. Les deux s'entendaient pas très bien d'ailleurs. C'était un peu mon couple parental à moi.
Et votre père, enfin bon, vous le voyez quand même, votre père.
Je le voyais, mais pas beaucoup. Et ça l'intéressait pas tellement la paternité, quoi. Donc ça m'a appris assez tôt à distinguer la personne du parent. C'est-à-dire que après, mon père, il est mort il y a 10 ans, mais j'ai vraiment bien réfléchi à ça, et je me suis dit c'était un mec bien, mais un père nul, quoi. Voilà, ça arrive. C'est pas pour autant que c'était un sale type. Il avait plein de qualités, mais juste, je pense que c'était pas vraiment à 100% un choix, le fait d'être parent. Et lui, pour le coup, il avait aussi envie de vivre une autre vie, mais il l'a plutôt fait, quoi. Voilà.
C'était quel type d'homme, votre père, justement, par rapport aux normes du masculin ?
Il était très... Il s'était beaucoup construit dans des normes de masculinité très classiques, voire toxiques, même si on ne disait pas ça à l'époque. Ouais, il avait un truc très... Par exemple, alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de ma famille, mais c'est marrant parce qu'il avait donc un père qui était très... Un garçon, ça pleure pas, ça... Ah bon, c'était les années 60 aussi, mais par exemple, quand il était petit, mon père voulait faire de la musique. De toute façon, ça a toujours été toute sa vie.
Il a grandi à Paris, votre père ?
Oui, il a grandi à Paris, et il voulait vraiment faire de la musique, et il a manifesté ça dès qu'il a parlé, quoi. Ce qu'il a vraiment dit à sa maman. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire de la musique. Et ça inquiétait mon grand-père, qui avait peur que du coup, il devienne un peu efféminé. Et du coup, pour l'endurcir, il l'a mis au judo de force, quand il avait 6 ans. Et ma grand-mère m'a raconté qu'à chaque fois qu'elle allait récupérer mon père à la sortie du judo, mon père pleurait, lui fondait en larmes dans les bras quand il était un tout petit garçon. Il disait « Maman, s'il te plaît, dis à papa que je veux vraiment arrêter le judo, je déteste ça. » Et en fait, mon grand-père, voyant que justement ça rentrait pas, se disait « Raison de plus, il faut vraiment, vraiment qu'il s'accroche, il faut qu'il s'endurcisse. » Et toutes les anecdotes que mon père m'a toujours racontées de son père, c'était que ça. C'était que des trucs de petites gifles mentales ou réelles d'ailleurs, pour l'endurcir, parce que voilà, c'est ça un vrai mec. Et comme mon père a jamais réussi à se plier à cette image-là, je pense qu'il était en conflit de... Du coup, il avait des envies de trucs de masculinité extérieure un peu naze, genre il voulait une grosse bagnole, il voulait des trucs comme ça, parce que je pense qu'il se rendait bien compte qu'il serait jamais le mec que voulait son père. Et ça lui a pourri la vie. Donc
Et vous, dans votre regard à vous, vous diriez que c'était un homme qui renvoyait de la virilité? Vous le trouviez comment?
Non, il avait une voix hyper douce, il était hyper sensible. Mais, ouais. Mais comme je pense plein de mecs de sa génération, enfin plein de mecs tout court d'ailleurs, beaucoup d'émotions dont il ne sait pas quoi faire, et qui lui vraiment l'intoxique, quoi. C'est-à-dire à réprimer des choses, à compenser par une espèce d'attitude un peu nulle pour... Enfin, voilà. Il y a beaucoup de... Il aurait fait le régal d'un psy, je pense, si ça avait été quelque chose qui se faisait un peu plus à ce moment-là.
Et donc, lui, musicien, en fait.
Oui.
Enfin, il a fait beaucoup de métiers, votre père,
oui,
c'est ça ?
Oui, mais vraiment, sa passion, c'était la musique. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a transmis. Voilà, c'était un peu notre lien.
Ouais, chez lui, il y avait beaucoup de il y avait quoi ? Il faisait de la guitare ? Il faisait...
Ouais, des claviers, guitare. De la guitare, mais surtout beaucoup de guitare. Et surtout, il m'a vraiment fait écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique depuis le début. Voilà.
Allez, on écoute justement un titre que vous avez choisi pour nous. Je ne sais pas si c'est votre père qui vous a fait écouter ça ou si c'est vous qui l'avez découvert. Vous allez nous raconter ça. On écoute Queen, I Want to Break Free. I want to break free. Alors c'était Queen sur Nova, un choix de notre invitée, Pénélope Bagieu. Pénélope, alors Queen, c'était quand est-ce que vous avez découvert ça, cette chanson ?
Queen, j'ai découvert quand j'avais, je pense, 5 ans. Et c'est vraiment toute mon enfance. C'est-à-dire que j'écoutais que ça comme musique. Et ça a été évidemment complètement injecté par mon père dans la vie de ma sœur et moi. Et il a trouvé une super façon de nous faire aimer, c'est qu'il nous a donné des cassettes avec les clips de Queen. Ce qui marche très bien sur les enfants. Et donc, nous, on était complètement imbibés de Queen tout le temps. On écrivait des histoires, on faisait des petites BD sur la vie des membres de Queen. C'était vraiment notre vie, quoi. Et j'ai appris à parler anglais en lisant les livrets des paroles de Queen, en essayant de comprendre. Et parmi les clips de Queen, mon préféré, celui qu'on connaissait le plus par cœur avec ma sœur et que j'ai beaucoup dessiné, c'est le clip de I Want to Break Free dans lequel les quatre membres de Queen sont habillés en femmes.
Ouais.
Où Freddie Mercury passe l'aspirateur en mini-jupe avec sa grosse moustache. Et chacun est une femme.
Ouais.
Brian May est une ménagère avec des bigoudis, Roger Taylor est une écolière et tout ça. Et j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu des hommes qui s'habillent en femmes. Et pas du tout de manière moqueuse, qui s'habillent en femmes, qui sont chacun une femme différente. Et je pense que ça a vraiment ouvert quelque chose dans ma tête.
Alors vous étiez quel type d'enfant ?
J'étais pas très extravertie. J'aimais plus que tout être avec des bouquins, avec des belles images, dessiner, regarder des images. Et j'aimais beaucoup ma sœur. J'avais des petits groupes de copines avec qui on imaginait des trucs. On était chacune des personnages. Mais globalement, j'étais hyper inquiète de tout, quoi. J'étais très inquiète j'avais des angoisses d'adulte. Voilà. Ce qui est toujours un peu compliqué. Donc, j'avais toujours mal au ventre. J'étais très stressée quand j'étais petite.
Et après, quand vous êtes devenue adolescente, devenir une jeune fille, ça a été compliqué pour vous ? Ça a été facile, cette question-là, justement, du féminin
Comme je n'avais pas tellement été élevée avec cette notion d'idéal féminin à atteindre, j'étais tardive sur plein de trucs. Mais je pense que ça m'a préservée beaucoup. C'est-à-dire que j'étais plus inquiète d'être cool que d'être féminine, quoi. C'était plutôt ça mon sujet.
Mais ils se rejoignent peut-être un peu en même temps. Mais...
Ouais, mais j'avais choisi une autre voie du coup pour affirmer mon cool.
Ou ne pas affirmer votre féminin.
Ouais, et puis pour des raisons assez culturelles, les choses que j'aimais m'amenaient plutôt à être dans des milieux masculins.
C'était quoi ? C'était les jeux de rôle ?
Ouais, tout ce que j'aimais. Dessin, en gros, tout ce que j'aimais, j'arrivais à trouver de la connivence qu'avec des garçons. Ouais. Et ça se fait dans cet ordre-là. C'est pour cette raison que du coup, j'ai eu l'impression que je m'entendais mieux avec les garçons qu'avec les filles. Et que par extension, je me suis dit que j'étais plutôt une fille qui s'entend mal avec les filles. C'est vraiment parti du fait que les choses qui m'intéressaient, j'aurais adoré les partager avec mes copines, mais j'avais pas trouvé les filles qui aimaient les mêmes choses. Alors que maintenant que je suis adulte et que je parle avec mes copines, je me rends compte que, mais vous étiez où en fait ? On aimait les mêmes trucs, mais on était assez isolés.
Oui.
Et du coup, j'étais très contente d'avoir une bande de copains mecs avec qui jouer à la console et faire du jeu de rôle. Et même, c'est fou comme les filles, on leur laisse pas accès à plein de choses qui les intéressent quand même, parce que même parler de musique... Ça, pour le coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça ce genre de questions. Pourquoi les gens disent « Ah, t'as des bons goûts pour une fille, t'aimes des... tu vois, tu t'y connais vraiment en musique pour une fille. »
Oui, ou si on connaît alors les instruments, alors là, c'est surréaliste, quoi. Ou les amplis, enfin, les filles qui s'intéressent vraiment aux trucs techniques, alors là, c'est... Ouais. Les garçons trouvent ça toujours très étonnant.
Et j'arrivais pas à comprendre ce qu'elles avaient en échange, les filles, comme trucs cool auxquels s'intéressaient. C'est que vraiment, je disais, mais du coup, nous, on a... Vous avez... C'est quoi vos trucs, alors, du coup, à part être... belle en fait, enfin, ouais. c'est vos hobbies, et bien pas du tout dans le jugement, mais j'aurais adoré qu'on me dise oui, mais c'est ce à quoi t'as pas accès en choisissant ce camp là, c'est que nous il y a 1000 trucs super dans nos vies, et j'avais l'impression que ce qui avait de cool dans cette vie là, c'était se torturer l'esprit à propos des mecs et essayer d'être belle et essayer d'être mince. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était pas que c'était moins bien, c'est que ça me faisait pas du tout envie en fait.
Ça, c'était des questions qui vous occupaient pas du tout, vous,
et bah, du coup, pas du tout. Parce que je me disais, ah, c'est bon, moi j'ai choisi mes batailles, c'est pas du tout ça mon truc.
Donc vous étiez beaucoup avec des garçons, mais c'était des copains.
Ouais.
Et il n'y avait pas trop de rapports de séduction, de choses comme ça.
Oh, bah j'aurais bien aimé, mais c'était pas... du coup, ça m'enfermait un peu dans... J'étais un peu le bon pote, quoi. Moi, j'ai une vie amoureuse adolescente très sous le signe du bon pote. en fait, c'était super aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que... Les quelques fois où j'ai osé un peu me déclarer... avec la sueur dans les mains et que j'ai tenté un truc, c'était l'étonnement, quoi. C'est que ça... En fait, les garçons avec qui j'étais oubliaient, du coup, que j'étais une fille, en fait, et que j'étais une fille hétéro. Donc, en fait, moi, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on ne soit pas que copains, mais...
Mais ça vous faisait souffrir, ça, l'adolescence, ou vous en rendiez pas trop compte, ou c'était occupé par autre chose ?
J'ai eu du gros chagrin, j'ai fait des grosses crises de larmes dans mes oreillers, parce que j'en avais marre que tel mec me voit comme un bon pote, mais déjà, ça m'a donné des super amitiés hyper durables. Pour ce qui est de la séduction pure, ça m'a surtout appris à y aller autrement qu'en étant belle, en fait. Donc, c'était un bon calcul.
Et alors justement, à l'adolescence, est-ce qu'il y avait des figures d'identification, ou en tout cas des figures de masculinité, de féminité qui vous plaisaient, ou à laquelle vous vous raccrochiez, ou qui vous aidaient à vous construire, ou qui vous inspiraient, je pense, dans la pop culture, dans la littérature, qui c'est qui vous plaisait à cette époque ?
Eh ben... C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi dans la liste des musiques dont je voulais parler. C'est que comme justement j'ai baigné complètement dans la culture musicale dans laquelle il n'y avait que des mecs, les cools étaient des mecs, si on voulait être cool, il fallait être des mecs. Même dans les moments où je me rêvais rockstar, j'arrivais pas à comprendre ce que je pourrais être. C'est que je me disais, je pourrais être une choriste. Enfin, il n'y avait pas de... Même mon imaginaire était paralysé par le fait que comment tu peux t'intéresser à ce monde-là alors qu'il n'y a aucune place pour toi.
Et il y avait des femmes, quand même.
Et un jour, il y a eu Gwen Stefani. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, a Et vraiment, ça a été un déclic. Et je suis sûre qu'on est énormément de femmes de ma génération à avoir eu ça. C'est que tout d'un coup, il y a cette fille qui est arrivée. C'est la chanteuse. Elle n'est pas en arrière-plan. Elle est hyper apprêtée, mais on sent qu'elle n'est pas du tout apprêtée.
No Doubt,
ouais, elle n'est pas apprêtée par un producteur qui lui a dit « Fais-toi un brushing et mets une robe ». Elle avait un look qui est discutable, mais qui était vraiment son look à elle de la vraie vie. Elle avait une voix hyper forte, elle était super cool, elle était hyper charismatique. On voulait toutes être elle, en fait. C'est que je me suis dit « Ok, c'est bon, il y en a une qui existe et c'est la plus cool de toutes ». Et du coup, vraiment, j'ai eu une espèce d'amour pour elle à cette époque-là, en me disant « Ok, c'est bon, quand je serai grande, je vais être Gwen Stefani, en fait. » elle est vraiment extraordinaire.
Dans le genre de...
Pénélope Bagieux.
Quel genre ?
Grande gueule.
Icône.
Élégant.
Dans le genre
de femme fatale.
Ouais, ce genre-là, ça me l'écorche.
Puissant.
Masculin.
Musclé. Séducteur.
Séductrice.
Féminin.
Agressive.
Raffinée. Dominatrice.
Viril. Vous êtes toujours sur Nova, vous êtes toujours en compagnie et dans le genre de l'autrice de BD Pénélope Bagieux. Souvenez-vous de son blog « Ma vie est tout à fait fascinante ». Il y a ensuite eu « Les culottés » qui ont été récemment adaptés en série animée sur France Télé. Et « Sacrée sorcière », sa dernière BD adaptée de Roald Dahl qui cartonne un peu partout. On continue cette émission en musique, c'est un choix de Pénélope, il me remplit de joie. C'est David Bowie, Suffragette City sur Nova. Voilà, c'était David Bowie et les Spiders from Mars sur Nova, Suffragette City. Pourquoi ce choix, Pénélope ?
Il fallait que je choisisse une chanson de Bowie et j'ai juste pris ma préférée. C'est pas cette chanson en particulier dont je voulais parler. Je voulais parler de Bowie.
Ouais, mais parlons de Bowie.
C'est vraiment juste ma chanson préférée de Bowie.
On peut parler de Bowie toutes les missions, si
vous
voulez.
Tout le temps.
Oui.
C'est marrant parce que quand j'étais donc petite, pour moi, la musique, c'était uniquement Queen. Et puis, il y avait quand même une chanson qui s'appelait Under Pressure, qui était un duo de Freddie Mercury et David Bowie. Ouais. Et pour moi, cette personne, David Bowie, était juste cette voix qui est moins technique que celle de Freddie Mercury, mais qui déclenche des choses très différentes. C'est que je me disais qu'elle était moins agréable et en même temps... c'était mon premier contact avec lui.
Ouais.
J'étais vraiment ado tardive quand j'ai commencé à m'intéresser à lui et qu'il a presque presque volé la vedette à Freddie Mercury dans ma vie. C'est que c'est devenu le deuxième culte de ma vie, c'est devenu David Bowie.
Mais vous êtes particulièrement attirée, je veux dire au moins comme ça, artistiquement, hein, imaginairement, je ne parle pas de votre vie privée, par ces masculinités comme ça, très... là, vous me citez Freddie Mercury, David Bowie...
Oui, il y a un pattern qui se dessine.
Il y a un pattern.
Ouais, et en plus de ça, pas du tout. Par exemple, j'ai jamais été, là où quand on est ado, on a un peu un côté groupie, j'ai jamais été amoureuse de ces chanteurs-là. Je me suis jamais dit, un jour je me marierai avec. Eux, c'était une fascination qui allait au-delà de juste le petit crush de midinette. C'est que je ne les trouvais pas beaux dans le sens de la séduction premier degré. Je les trouvais flamboyants comme des oiseaux rares, quoi. C'est que j'avais plus envie d'être eux que de les avoir, quoi.
Alors, j'aimerais juste qu'on parle quelques minutes là, de la période qu'on vient de traverser. Bon, moi, je vous ai suivi sur Instagram. Hein, je vous ai vu faire avec beaucoup de talent des gâteaux, du yoga. et puis aussi, plus sérieusement, rejoindre... Enfin, même si ça, c'était très sérieux hein, dans le confinement. Mais rejoindre des actions ou en initier certaines ou être à l'origine de certaines. Il y a eu Corona Maison, là, cette espèce de Kadarvaski de dessin qui était assez génial avec d'autres dessinateurs. Et puis après, vous avez aussi... vous êtes engagé pour des actions. Il y a eu Confiné Solidaire. Enfin, bon, justement... La solidarité dans le confinement, je ne sais pas si c'est ça qui a gagné ou si c'est ça qui a pas gagné. Enfin, je vais vous demander comment vous aviez vécu cette crise un petit peu et quel sentiment ça vous donne aujourd'hui. C'est une crise qui a fait ressortir beaucoup d'inégalités. On parle de genre dans cette émission, beaucoup d'inégalités de genre. On a vu aussi que tous les gens qui tenaient la baraque, entre guillemets, c'était beaucoup des femmes sous-payées ou des minorités. Voilà. Quel sentiment ça vous laisse ?
J'ai du mal à parler du confinement parce que je suis extrêmement privilégiée, que j'ai vraiment... C'est pour ça que, par exemple, j'ai pas du tout fait les interviews de confinement, confiné. Les trucs comme ça, parce qu'il y en a eu beaucoup. En fait, je trouvais ça assez indécent de raconter que je m'ennuyais et que, heureusement, j'avais trouvé une recette de gâteau. Et alors, vraiment, je dis pas du tout ça pour les gens qui l'ont fait. Je pense qu'on a tous géré ça comme on a pu. Mais j'avais tellement conscience de à quel point j'avais vraiment pas de raison de l'ouvrir. Je pense que jamais on s'est rendu compte à quel point il y avait un fossé d'inégalité entre les gens privilégiés comme moi et les gens qui l'étaient pas. Le fait que, par exemple, je n'ai pas eu à sortir de chez moi, que j'ai pas eu à aller travailler quelque part, que j'ai eu aucune inquiétude de santé, que je sorte ou que je reste chez moi, mon travail c'est pareil. J'étais dans un appartement qui est... Bon, alors évidemment, j'aurais adoré avoir une terrasse. Mais bon, c'est comme dans un appartement avec de la lumière.
Ouais.
Voilà. Donc, à chaque fois que je commençais à émettre dans ma tête un ras-le-bol de quelque chose, il était immédiatement... Vraiment, ça lui mettait une petite tape sur la main. L'autre partie de mon cerveau disait « T'as pas honte ?» Et du coup, j'ai pas réussi à vraiment dépasser ce truc-là. Et c'est pour ça que, de manière un peu frénétique, toutes les actions qu'on m'a proposées, que m'ont proposées, et la Croix-Rouge, les Secours Populaires, et Bibliothèque Sans Frontières, absolument toutes... Je me précipitais dessus parce que c'était la seule. En fait, c'est le seul truc que je peux faire. C'est vraiment, moi, je pouvais rien faire d'autre à part ça. Enfin, voter la prochaine fois en conséquence aussi, mais voilà, je peux rien faire d'autre. Et du coup, de me dire, tu te rends compte que tu pourrais en plus être obligé d'aller bosser pour. Être caissière, pour être soignante, pour être pour faire tous ces boulots-là, que les gens applaudissent et que les politiques disent être bravo, des les héros, vous aurez des médailles. Je pense que
juste ce discours très très de la nation, de la virilité, de la guerre, de ce chant. Et puis de l'autre côté, il y avait.
C'est ça. Puis de l'autre côté, il y a celle dont on a rien à foutre et à qui finalement on donne même pas de prime au final.
C'est compliqué, mais est-ce que vous avez un espoir qu'il y ait des choses qui changent justement, qu'on tire les leçons de tout ça, puisqu'on l'a bien vu en bien gros que effectivement, ces gens étaient sous-payés, qu'on les envoyait au charbon, que. Ou que justement la logique néolibérale elle va reprendre le dessus et que ça va repartir.
J'ai l'impression que les gens qui avaient une vie agréable avant, j'en fais partie, je m'inclus dedans, ont surtout hâte que les choses redeviennent comme avant. C'est-à-dire tout ce qui leur a manqué pendant le confinement, ce sont des choses auxquelles la plupart des gens n'ont jamais accès d'habitude de toute façon. Et donc il est temps de récupérer ce privilège parce que pendant 2 mois on a vu ce que ça faisait de pas avoir tous ces trucs là. Alors bien sûr, il y a aussi plein de choses qui étaient universelles. On n'a pas pu voir nos proches, on n'a pas. Mais dans les choses qui nous ont manqué, il y a aussi beaucoup de choses de vie culturelle, de confort matériel, de choses qui sont éthiquement pas géniales, mais quand même bien pratiques. Et du coup, on avait très hâte de récupérer ce truc et de recréer ce fossé. En fait, c'est que c'est pas dans l'ordre des choses qu'on soit privé de tout ça. Et je vois pas se dessiner une envie de se débarrasser de ces choses-là. Alors quand c'est la vie culturelle, heureusement, mais j'ai pas de jugement à faire sur qui fait quoi. Et moi aussi, dans les trucs que j'avais très 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 hâte de faire, dans la liste des trucs, quand mon cerveau commençait à délirer au bout de 2 mois, je me disais, oh là, la première fois que je vais me refaire livrer de la bouffe, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire livrer? Est-ce que je vais me faire des sushis ou une pizza?
Oui, c'est vrai que c'est des pensées.
J'avais hâte de ça, évidemment. Et immédiatement, je me disais, mais tu te rends compte à quoi tu penses? Je me disais, bah ouais, en fait, je suis vraiment câblée comme ça. C'est qu'au bout de 2 mois, je commence à me dire, j'ai quand même vraiment hâte de me faire livrer de la bouffe. Donc, je fais partie des choses qui vont faire que le système va se remettre naturellement comme il est. En revanche, je pense que ce qui peut peut-être changer la donne, comme souvent, c'est qu'on politise ce qui s'est passé. Au lieu de se dire, oui, mais là, c'est pas une question de qui a fait quoi mal, on est tous dans le même bateau. Je pense que c'est hyper important de se rappeler que non, si on en est arrivé là, notamment si on en est arrivé à ce délabrement de l'hôpital, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas parce qu'il y a eu un dégât des eaux à l'hôpital. Donc, il ne faut pas que ça nous endorme là-dessus. Il faut se rappeler dans quel contexte de colère sociale on était juste avant et reprendre là où on a laissé le truc, en fait. Reprendre le livre à la page qui était cornée et ne pas dépolitiser ça en se disant, bon, ben, profitons-en pour repartir à zéro. Alors, OK, mais alors à zéro partout.
Justement, vous parlez de politiser ça. Il y a eu un texte dans Libération le 27 avril là, du philosophe Paul B. Preciado qui disait « Nous étions sur le point de faire la révolution féministe et puis le virus est arrivé ». Et donc, il dit effectivement que tout d'un coup, il y a eu une décollectivisation des stratégies de lutte. Par ce virus qui a tout arrêté net, puisque ça a été un blackout de tout. Vous avez peur de ça, justement, que ce soit compliqué de recollectiviser, de retrouver...
J'ai trouvé que pendant le confinement, il y avait quand même beaucoup d'initiatives de résistance par rapport à ça. Par exemple, le fait que Caroline Dehas ait formé un nombre incalculable de gens à la vigilance contre les violences domestiques avec nous toutes, qu'elle a monté ce truc-là, elle a fait des zooms avec je ne sais pas combien de centaines de gens qu'elle
avec
a formé. Avec nous toutes.
Oui.
En se disant, OK, c'est plus que jamais l'occasion de se mobiliser, de faire des choses. C'est vrai que la peur était que... J'avais l'impression, effectivement, qu'on avait une espèce de gros soufflé, de bien, bien, bien gonflé en mars. Il y avait quand même une mobilisation incroyable le 8 mars...
Il y a eu la cérémonie des Césars aussi.
Qui avait vraiment tellement cristallisé la colère. On était toutes vraiment sur les dents, j'avais l'impression.
Il y a eu « On se lève et on se casse ».
Exactement.
Ça résonnait en vous, ce texte-là
Je me suis cassée devant Pleyel même. Comme souvent, ça m'aide à me dire que je suis pas... Au moins, on est plein à être énervé et à crier. Et puis tout d'un coup, temps mort, on arrête tout, pause. On se gèle là où on était. Et puis du coup, vous êtes sympa, mais je pense qu'il y en a quand même d'autres soucis là tout de suite que les histoires de violence. Alors que les violences domestiques ont, méga surprise, explosé pendant le confinement, que les standards ont, je crois, diminué leurs horaires d'ouverture d'écoute des violences domestiques. Ça a fait ressurgir encore plus tout ce qui n'allait pas, quoi. Donc effectivement, j'espère que ça va redémarrer là où on a laissé, en pause.
Vous le disiez, votre mère ne vous a jamais éduqué en vous parlant de féminisme, mais en même temps, elle vous a éduqué d'une façon féministe dans les actions qu'elle faisait. Vous, en tout cas, le moment où vous vous êtes dit « bon, même moi, je suis féministe », c'est quand ?
Ça se fait en plusieurs étapes. Le moment où j'ai pris conscience du besoin d'être féministe, c'est à partir des premières fois où des choses m'ont été interdites ou compliquées parce que j'étais une femme. C'est comme ça que je me suis construite. D'ailleurs, la seule façon qui fait que je sais que je suis une femme, c'est tout ce que je ne peux pas faire. En fait, il n'y a rien d'autre...
C'est la limitation.
Exactement. Et c'est le deux poids, deux mesures. C'est à chaque fois que je me rends compte que quelque chose est différent pour moi, je cherche, je me dis « Ah, mais ça, c'est aussi parce que je suis une femme, c'est marrant. » Et donc, petit à petit, avec ces morceaux d'interdits, je construis ce que c'est que d'être une femme. Ça y est, maintenant, je comprends. Et du coup, de comprendre qu'il y avait ça, de déconstruire petit à petit tous ces trucs qui m'étaient imposés ou interdits parce que j'étais une femme, et après, comprendre qu'il existait une réflexion plus globale de gens qui voulaient mettre fin à ça, et que c'était ça le féminisme. Voilà. Je suis devenue féministe quand j'ai compris que ça ne voulait pas dire détester les hommes, et que ça voulait pas dire, mais que ça voulait dire avoir une réflexion entre personnes qui subissent une oppression, et réfléchir à comment en venir à bout. Du coup, quand c'est cette définition-là, je me suis dit « ouais, ça, je signe, carrément ». Et puis après, je pense qu'on devient féministe quand on le verbalise. Quand c'est un mot dont on n'a plus peur. Et ça m'a pris du temps.
Et ça a compliqué vos relations avec les hommes ou pas ? Vous êtes hétéro, donc...
Ça les a complexifiés parce que j'ai commencé à comprendre ce qui était du domaine de l'ordre établi et du systémique et plus de l'individuel. C'est-à-dire d'arrêter, pour être plus clair, d'arrêter de me dire « Ah, moi, j'ai ce problème que je rencontre avec lui » et de me dire « En fait, je crois que c'est un petit peu plus large que ça. C'est qu'il va falloir que j'accepte qu'il y a une déconstruction à faire chez cette catégorie de la population qui m'intéresse quand même, que je le veuille ou non. » Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas qu'une question de bonne volonté de sa part ou de « Ah, oh, mais c'est un mec sympa. » C'est qu'en fait, il y avait autre chose qui devait se mettre en place de manière plus fondamentale. Et donc oui, ça complique tout. Parce que c'est Vienne Gornick qui dit ça. Hein, c'est « On couche avec l'ennemi. » quoi. Donc c'est compliqué.
On écoute un peu de musique. Cass Elliot, « Dream a little dream of me » sur Nova. Kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Dans le genre de
Pénélope Bagieu. Voilà, c'était Mama Cass, c'est la chanteuse, entre autres, des Mamas and Papas, qui ensuite a fait une assez longue carrière solo. Et vous lui avez consacré une BD il y a quelques années, California Dreaming. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle ?
Comme souvent, un peu des obsessions d'enfance. Mes parents avaient une cassette best-of des Mamas and Papas dans la voiture. Donc je l'ai entendue vraiment comme un membre de la famille en arrière-plan pendant des années, jusqu'à ce que j'ai la curiosité de me demander qui était cette fille, puisque je croyais que c'était juste une chanteuse, et de découvrir en voyant la pochette que c'était un groupe, qu'ils étaient quatre, et qu'il y en avait une au milieu, on voyait qu'elle était grosse, et que c'était elle, cette voix, en fait. Et du coup, c'était fait. J'étais harponnée à Cass Elliot pour la vie.
Alors, j'aimerais qu'on écoute une autre voix. C'est Agnès Varda.
J'ai senti quand même quelquefois chez les femmes quelque chose, une petite musique particulière. C'est pas pour ça qu'on doit dire que les femmes doivent filmer féminin. Mais il y a des moments, moi j'ai ressenti dans certains films, il y a une femme comme Chantal Akerman, quand elle a fait Jeanne Dielman qui est du commerce, dans les années je sais pas quoi, 60, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Elle se posait la question du temps. Shirley Clarke, qui a fait des films vraiment particuliers, quand personne faisait ça à cette époque-là. Alors qui, j'ai pensé à Lucrezia Martel, j'ai pensé aussi à Claire Denis, Jane Campion, ses premiers films étaient extraordinaires, les autres aussi, mais Sweetie, An Angel at My Table. Et alors, dans les séries, il y a une femme qui est tout à fait rebelle et très drôle en Amérique, Lena Dunham, qui a fait une série qui s'appelle Girls. Et vraiment, elle fait à sa façon, elle change les prototypes. Elle change la façon de filmer, elle joue elle-même. Vous avez ça chez tous les peintres. Ils sont quelquefois tellement dans leur propre peinture. Et je vous ai cité une artiste, deux que j'aime, mais Niki de Saint-Phalle, pour moi, est un modèle de liberté quand elle a pris le fusil des hommes et qu'elle a tapé dans des boules de peinture pour faire éclater la peinture, quand elle a fait ces énormes nanas hors format et magnifiques, et quand on sait les souffrances qu'elle a eues dans sa vie et comment elle a éclaté ça en beauté, en couleur. Donc il y a des femmes vraiment qui ont réussi, avec une écriture de femmes, à dire des choses qui sont l'affirmation que les femmes ont une force vitale et une capacité de création aussi grande et aussi intéressante et un peu différente de celle des hommes.
Alors là, c'était Agnès Varda, c'était un talk Kering. En fait, elle parle de l'écriture féminine, enfin en tout cas d'une créativité au moins aussi intéressante que celle des hommes et un peu différente. Vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui. En fait, je suis vraiment même très d'accord. Pendant longtemps, je m'en suis défendue en disant mais les femmes écrivent les mêmes livres que les hommes, c'est pas vrai. En fait, les femmes peuvent écrire les mêmes types de livres que les hommes, c'est-à-dire elles peuvent s'attaquer à n'importe quel sujet. Elles sont pas cantonnées à des sujets féminins. En revanche...
Si on les y cantonne souvent.
Exactement. Mais donc, ouais. C'est ça le piège, c'est ouais. De dire... Non, je peux écrire ce que je veux, mais oui, j'aurai toujours une façon de le raconter qui sera différente. Mon vécu n'est pas le même. Les choses dont je vais parler seront plus sincères quand je parle de choses que j'ai vécues que si un scénariste homme essayait de se mettre dans la peau d'une femme, par exemple.
Ce serait un rapport aux émotions différent, alors, par exemple.
Oui, et puis de l'expérience, tout simplement. C'est que de la même manière que moi, je ne vais pas m'amuser à aller raconter des expériences que je n'ai pas vécues en n'ayant aucune idée de ce que je raconte. Je pense que une écriture de femme... Elle existe, simplement elle est vraiment polymorphe. C'est ça le truc dont il faut réussir à s'extraire. Je pense à tout ce qu'elle a dit, je trouvais ça... C'est marrant comme Niki de Saint-Phalle ou les grandes plasticiennes du XXe siècle. On fait peur, en fait. Je me disais, c'est marrant, comme Niki de Saint-Phalle, c'était vraiment une poupée. Jusqu'au moment où...
Elle fait cette vidéo.
Et puis même où en fait, on se dit, ah merde, en fait, elle fait un art qui est assez brutal, physique, où ça, beaucoup de choses sortent d'elle-même, elle sort beaucoup du cadre. Et du coup, on s'était dit, ah mais non, elle, c'est la sympa, c'est pas Louise Bourgeois. Et puis en fait, non, même Niki de Saint-Phalle, elle est rough, quoi.
Ouais,
et il y avait une super grande expo d'elle au Grand Palais, il y a, je sais pas, 5-6 ans, un truc comme ça, où on voyait plus elle vieillissait, plus elle était brute, quoi.
Et justement, là, puisqu'on parlait d'écriture de femmes ou de livres faits par des femmes, je crois qu'une des BD que vous préférez, ou en tout cas que vous trouvez la mieux écrite, c'est Fun Home, mm-hmm. D'Alison Bechdel. Et puis bon, moi j'avais assez envie qu'on parle d'Alison Bechdel.
Bon, moi je suis toujours partante aussi.
Voilà. Est-ce que vous pourriez prendre une page comme ça et m'expliquer pourquoi vous aimez tant ?
Ouais, je peux, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu ? Parce que moi je me dis que si on a des auditeurs, des auditrices qui découvrent ce bouquin grâce à cette émission, ben ça sera quelque chose de chouette.
Si vous étiez mes amis, les auditeurs et les auditrices de Nova, je vous dirais, je ne veux même pas t'expliquer. S'il te plaît, fais-le pour moi, c'est un service. Tu vas l'acheter. Si tu veux, même, je te l'offre. Et puis, si tu n'aimes pas, tu l'offres. Mais je suis à peu près sûre que tu vas l'aimer, sinon je te rembourse. Vous êtes trop nombreux, je ne peux pas faire ça. mais vraiment, sinon, je vous dirais, sautez dans le vide et croyez-moi, on ne peut pas être déçu par Fun Home. Je ne connais pas de gens qui n'ont pas été bouleversés par ce livre. Donc, c'est l'histoire autobiographique d'Alison Bechdel qui raconte le fait d'avoir grandi dans un funérarium. D'où le titre, Fun Home, et qui a des parents qui ont leur propre bagage, quoi, qui ont beaucoup de choses à gérer, notamment des rapports amoureux très compliqués entre eux. Et en fait, elle va décortiquer les rapports qu'elle entretient avec sa mère, avec qui elle a des rapports très compliqués, et sa propre homosexualité à elle, dont elle prend conscience au fur et à mesure. Et puis, comme ça rapproche et ça sépare de ses parents, en fait. Et c'est fait avec beaucoup de finesse, bien sûr, mais beaucoup d'honnêteté aussi. Et c'est un livre qui hante pendant très longtemps, qu'on relit. C'est vraiment effectivement une des bandes dessinées qui m'a le plus marquée, je pense.
Je sais que vous lisez énormément de BD, que chaque semaine vous en achetez plein, vous faites des piles chez vous. beaucoup de BD écrites par des femmes. Mm-hmm. Dans la nouvelle génération, justement, il y a des choses qui vous enthousiasment. Vous avez l'impression qu'il y a des choses qui changent là.
Tellement. C'est moi, je suis bien plus inspirée. On me demande toujours si je m'inspire des autrices de BD qu'il y a eu avant moi, etc. Moi, je m'inspire tellement de celles qui sont après.
Tout ça,
je me sens tellement plus, pas proche, mais je trouve que ça... J'ai énormément d'admiration pour Claire Bretéché, j'adore.
Oui, bien sûr.
Mais je suis plus inspirée et tirée vers le haut par les femmes plus jeunes que moi, par les femmes qui écrivent, qui ont 25 ans, qui ont une richesse d'écriture, une créativité et une liberté que j'envie tellement, et particulièrement à 25 ans. Et en plus, elles sont arrivées dans un milieu de la bande dessinée qui était en fin de mue, j'ai l'impression, par rapport à toute ce mépris pour les récits féminins. C'est qu'elles arrivent à un moment où le terrain est déjà un petit peu moins rocailleux et où on les écoute. Donc...
Ouais, enfin Myrion Mal qui était passée ici justement disait qu'elle trouvait que c'était un milieu où il y avait encore beaucoup de justement de sexisme, de paternalisme, que voilà il y avait, enfin alors oui il y a de plus en plus d'auteurs femmes dans la BD et je pense qu'il y a aussi de plus en plus de public prêt à les tout à fait prêt à les lire aujourd'hui, des garçons et des filles, mais que le milieu restait encore quand même.
Ah bah oui, bien sûr. Je dis que c'est une mue, je dis pas que le travail est derrière nous. Hein. La peau est pas encore complètement détachée, mais moi je vois déjà les progrès qu'il y a eu en 10 ans en fait. C'est pour ça, c'est que ne plus avoir à s'excuser de parler de sujets féminins, c'est quand même une sacrée avancée. Hein. Ne pas être immédiatement dénigré parce qu'on parle de règles. Alors, le boulot est pas fini encore une fois, mais ça peut être un sujet.
Dans le genre.
Dans le genre.
Pénélope Bagieux, quel rapport entretenez-vous avec votre physique ?
Oh, ça s'améliore quand même pas mal en vieillissant. J'ai découvert que mon corps avait plus qu'un visuel, et notamment par le sport et par je trouve pas d'autres mots, il est nul, mais la performance physique.
Ouais.
Je me suis rendu compte que ce qui pouvait m'apporter mon corps au-delà de l'image, c'était ce qui me permettait de faire, qui était dingue. Qui était vraiment dingue. Quand j'ai commencé à courir, par exemple, hyper tard, en étant en plus ancienne fumeuse, avec des genoux en toc, et que je me suis dit, ah, en fait, c'est une machine, mon corps, et je l'entraîne, et je lui fais faire ce que je veux. Et en fait, j'ai découvert que parmi on a des qualités dans la vie, on est rigolo, on est organisé, on est machin, et j'ai découvert, coup de chance de la génétique, que moi, j'avais une super endurance physique, et que je faisais super facilement des muscles, et qu'en fait, j'étais vraiment... costaud, quoi. J'ai découvert ça. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, moi, je cours vraiment bien. Et du coup, j'ai fait un marathon. Et je me suis et je me suis dit, mais je suis bonne, en fait. Je suis vraiment forte.
Ben ouais.
Et après, je me suis blessée à la course. Du coup, j'ai dû arrêter la course. Et du coup, j'ai vraiment par dépit, je me suis mis au yoga alors que j'exécrais complètement de ce que ça représentait à l'époque. Parce que j'avais beaucoup de fausses idées. Et pareil, je me suis dit, putain, mais je suis hyper bonne. Du coup, j'ai passé mon diplôme pour devenir prof. Et je me suis dit, ça, en fait, je savais pas que j'avais ça en moi. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans le fait de prendre le contrôle de sa force physique dans le sport, c'est que on a beau dire, c'est quelque chose vers quoi on n'est pas du tout poussé, parce qu'on dit, ouais, mais attention de pas prendre trop de muscles quand même. Attention, parce que tu sais, une fille, c'est quand même pas très.
Il y a toujours
le. Bon, il y a des muscles qui sont ok, on est les bienvenus, mais tu feras attention, ça fait quand même des gros bras. Et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, quand je veux me mettre en équilibre, les jambes en l'air. Heureusement que j'ai des super bras hyper costauds. Et ils sont beaux, mes bras, quand ils sont musclés. Et qu'en fait, la dimension, la 3D de la beauté, c'était ce que le corps était capable de faire. Et ça m'a vraiment pas réconciliée, parce que j'étais pas en guerre avec mon physique, mais ce que j'aime chez lui, c'est vraiment sa force, quoi.
Qu'est-ce que vous mettez en avant pour séduire ?
Mon humour ravageur. Bah, je sais pas, je trouve que c'est marrant, je regardais il y a pas très longtemps, une copine m'a envoyé des photos de nous à 20 ans, et elle me disait, putain, tu te rends compte qu'à l'époque, on se trouvait un million de défauts physiques, elle me dit, regarde comment on était belles, on était des bébés, on avait une peau parfaite, c'est fou qu'à l'époque, on se soit pas juste dit, putain, je suis jeune, je suis hyper bonne. On disait, ouais, mais regarde, j'ai un bouton, elle me disait, oh là, et maintenant, regarde, on est tapés et tout ça. Et je trouve qu'on apprend vachement à savourer ce qu'on a plus le temps passe, parce que moi, concrètement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus belle à l'approche de 40 qu'à 20. Parce que juste, déjà, je pense que je me regarde mieux, je sais ce qui me va, enfin, voilà. Et puis, ça se fait beaucoup moins dans les yeux des autres, en fait.
Qu'est-ce qui vous plaît chez un homme ou une personne qui vous plaît ?
Les petites imperfections physiques. Je sais que c'est gnangnang de dire ça, mais moi, c'est vrai, je peux vraiment tomber amoureuse d'une dent tordue, quoi. Vraiment, c'est fou. Un exemple hyper concret. Hier soir, j'ai regardé d'ailleurs d'une traite toute la saison de Afterlife avec Ricky Gervais, qui est un personnage que déjà lui-même a des prises de position qui me font vraiment, qui me hérissent le poil. Et même s'il est très drôle, je trouve qu'il est assez complexe et assez, parfois un peu embêtant. Il est clairement pas dans les canons de beauté ni rien. Mais j'arrête pas de me dire, ah, il a un truc, je sais pas ce que c'est. Et au bout de 4 épisodes, j'ai compris, il a exactement les mêmes dents que Bowie. C'est-à-dire qu'il a les canines en avant et les incisives qui rentrent vers l'intérieur. Et ça, moi, ça me tue.
Quand il a fait refaire ses dents, ça a été un drame, je trouve.
En fait, Bowie. Ce sourire de requin avec les canines vers l'avant, ça me bute, moi. C'est, en fait, je peux vraiment... je pense que je pourrais tout plaquer pour partir avec quelqu'un qui a une dent pourrie, quoi.
Est-ce que vous auriez aimé être un homme ?
Non, et sans vouloir paraphraser Virginie Despentes, j'aurais pas aimé être un homme, mais j'aurais bien aimé qu'être une femme me permette d'avoir la place cool des hommes. Voilà, c'est ça, ça doit être vraiment cool. Ça m'est arrivé une fois de rêver que j'étais un mec, et j'allais dans la rue, la nuit.
Dans votre sommeil, vous voulez
ouais,
dire
ouais, ouais,
un et vrai voilà. rêve.
Et c'était, ça faisait partie des choses de mon rêve. Je me disais, ouais, à un moment, je marchais dans la rue, et c'était la nuit, et j'étais genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je marche dans la rue la nuit. Et en fait, c'est une réalité parallèle pour nous, quoi. Ouais. Donc, ça doit être super de pouvoir aller partout. Mais j'aimerais pas être un homme, je voudrais juste avoir le droit de faire les mêmes trucs. Voilà.
Et est-ce que vous auriez aimé être une femme très différente de celle que vous êtes ?
Ben, il y a plein de femmes pour qui j'ai l'impression que tout a l'air simple et qu'elles savent où elles en sont exactement et qui ont toujours la bonne attitude et qui ont exactement la bonne dose de ce qu'il faut. Donc ça me fait envie. Mais avec le temps, j'ai découvert que j'étais cette femme-là pour plein de femmes moi-même. Et que ce qui prouve bien que, en fait, personne n'y arrive. Voilà. Si on arrivait à toutes se dire, à mettre vraiment les cartes à plat et se dire, on a quand même un point commun, c'est que on n'arrive jamais à être exactement ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous. On a toujours un truc qui ne va pas. On est trop grosse, trop vieille, pas assez avec nos enfants, trop avec nos enfants. On bosse trop, on bosse pas assez. Ok, on a compris. Ça marchera jamais. En fait, on n'aura jamais le badge. Donc, mettons-nous toutes d'accord là-dessus. J'aspire à avoir à me faire à cette idée en vieillissant. Je pense que moi, vraiment globalement, je pense que c'est ce qui ressort de tout ce que je pense. Je pense que je vais être une vieille dame très heureuse et vraiment euphorique. Et puis alors, j'en aurai rien à foutre de rien en plus. Donc ça sera ma vie sera géniale.
Voilà, ça sera notre mot de la fin. Merci Pénélope Bagieux. Cette émission a été réalisée par Benoît Thuau. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous.
Dans le genre.
Dans le genre. Une émission à retrouver en podcast sur nova.fr.